A Saint-Tropez, la luna si destacó un té. Eva Lightwist, contándoles del en el cielo. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo, twist, twist, sta impazzendo. Sogna, vuol tornare, una lunga notte ancora mai più scordare, a Saint-Tropez. La gente si chiede perché tu balli twist portando un vestito in lame. Vuoi sembrare ancora più bella ma l'amore è sempre quella se tu balli twist. Vuoi sembrare ancora più bella ma l'amore è sempre quella se tu balli twist, twist. Scordare Saint-Tropez, la gente si chiede perché ci vuole il twist portando un vestito in lame. Vuoi sembrare ancora più bella ma l'amore è sempre quella se tu vuole il twist. Ballano, cantano, senti che brivido, questa è la vita fantastica di Saint-Tropez.
Le Saint-Tropez Twist de Peppino Di Capri. Belle mais pauvre est un film italien sorti en 1957 de Dino Risi. Jusqu'à présent, il était impossible de le voir. Il n'était pas ressorti en salle depuis 70 ans. Sauf qu'il y a un homme qui est ici avec moi dans le studio ce matin, qui s'est donné pour mission, pour passion presque, de récupérer de vieux films, souvent italiens, de les restaurer, de les distribuer et de leur redonner une vie en salle. Bonjour Ronald Chama.
Bonjour.
Grâce à vous, Belle mais pauvre est visible depuis cette semaine, depuis mercredi, à Paris. Vous êtes réalisateur, producteur, mais on vous connaît moins pour cette passion de la restauration de vieux films via votre société de production qui s'appelle Les Films de Camélia. D'où ça vous vient, cette passion pour la restauration ?
Écoutez, c'est presque, je dirais même, c'est un hasard, parce que ça a commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années avec le film Vanda de Barbara Loden, et ça a été vraiment un coup de cœur à l'époque. C'était un film que j'avais vu il y a quelques temps quand je circulais un peu dans Paris, et il était ressorti grâce à Marguerite Duras qui voulait donner
une seconde vie à ce
film. En fait, je lui ai donné une troisième vie, en fait. Et c'est grâce à la seconde vie où j'ai vu ce film, il était resté un peu dans ma mémoire, et un jour, 20 ans après, je me suis dit, si un film a remontré, c'est ce film-là. Et j'ai commencé par ce film, et il a eu une histoire assez exceptionnelle, donc ça m'a permis de continuer, et ça a démarré comme ça, en fait.
Et vous êtes lancé là-dedans, dans ce nouvel métier. Voilà. Mais comment ça fonctionne? C'est une question qui peut vous paraître naïve, mais enfin, on imagine quasiment plus que des choses peuvent disparaître à l'heure du numérique dont on parle depuis 7h30 ce matin sur cette antenne. C'est vrai que aujourd'hui tout est gravé dans du numérique, est toujours visible, sauf que là, 70 ans à l'échelle du temps, c'est pas grand-chose, et pourtant, ces films disparaissent. Parce qu'ils s'abîment ?
Voilà, ils sont en fait, ils sont sur des... Ces films ont été tournés en 35 mm, donc c'est sur un support qui est dégradable, surtout s'il n'est pas bien traité ou bien conservé. Et bon, en Italie, les films sont relativement, je dirais pas bien conservés, mais assez bien conservés. Donc les films de ces années-là, des grands studios italiens, ont une vie un peu plus longue, oui, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc la restauration est plus simple. Mais dans d'autres pays, il y a des films qui sont proches de la disparition, et c'est vrai que Enfin, bon, il y a un mouvement général quand même aujourd'hui.
Pour essayer de les sauver.
Des sauver.
Mais comment vous choisissez, vous, les films?
Moi, c'est culture personnelle.
Ouais.
Bon, moi, j'ai grandi en Italie, donc j'ai grandi avec tout ce film-là, et je les connais, je les ai vus et revus. Et puis, une fois que je suis devenu distributeur, je repêche un peu dans ma mémoire. Et puis, je me dis, voilà, quand je retrouve... Puis, il faut aussi que les films soient libres de droits. Et que...
Parce que du coup, vous rachetez les droits
quel... Je rachète les droits, bien sûr. Sinon, je ne ferais pas la restauration. Il y a plusieurs fondations qui s'en occupent. Il y a des musées, des laboratoires qui sont très connus, qui s'occupent de ça. Mais moi, étant privé et personnellement, je préfère avoir les droits d'abord. Parce que sinon, ce n'est pas possible.
Donc, vous achetez les droits et ensuite, comment ça fonctionne?
J'achète les droits.
Vous récupérez les bandes de 35 mm,
après,
par
non, après, je contacte des laboratoires. Non, d'abord, en Italie, le matériel est existant. D'une certaine manière, c'est pas difficile à retrouver parce que je sors aussi des films américains indépendants. Donc là, c'est un peu plus compliqué.
C'est plus compliqué.
Ouais, c'est plus compliqué. Mais disons, les films italiens sont tous repérables majoritairement dans les studios, dans les laboratoires italiens. Ils sont toujours là parce que les héritiers des grands producteurs sont toujours là. Donc les films et les négatifs sont toujours là. Bref, il y a un laboratoire à Bologne, par exemple, pour ne pas le citer. C'est un peu un centre du monde de la restauration. Et eux, ils récupèrent, parce qu'ils sont liés à la Cinémathèque aussi de Bologne, donc ils récupèrent beaucoup de négatifs. Et ils attendent que des gens comme moi, ou des institutions, ou l'État italien...
Soit des privés, soit du public.
Du public, ouais. Viennent leur demander de faire de la restauration. C'est eux qui s'en occupent techniquement, moi je n'en occupe pas. C'est juste financier et voilà. Donc
et ensuite, on les passe en numérique.
Ensuite, ils font la restauration sur le négatif et le transfert sur le numérique. Et puis après, on reçoit les fameux DCP, qui est une sorte de disque dur aujourd'hui. Parce que la France est complètement numérisée maintenant, depuis quelques temps. Et même si on tient beaucoup au 35, hein, moi j'ai récupéré deux salles de cinéma à Paris... l'école 21 et Christine 21, et on montre encore du 35 mm, parce qu'il y a quand même beaucoup d'engouement sur ça, et nous, moi j'aime beaucoup voir des films encore en 35. Ça devient de plus en plus compliqué, mais on y arrive encore, on résiste.
Dans vos salles, on peut diffuser donc en numérique et en 35.
Et en 35, absolument. Et donc, pour le moment, pour sortir les films un peu dans toute la France et à Paris, il faut du numérique. Donc ils arrivent sur des disques durs, dans des boîtes bien protectrices, et voilà.
Qu'est-ce qui fait qu'un vieux film reste un bon film?
C'est qu'un bon film ne vieillit jamais, en fait. En gros, c'est ça. Et donc, et puis il y en a beaucoup de bons, surtout italiens, qui sont un peu oubliés ici en France ou pas connus. Donc, c'est bien de les faire connaître. Et puis, il y a un public qui est très attentif à ça ici à Paris et en France. Et c'est une particularité.
Parce qu'il y a du monde dans vos salles pour aller voir ces films.
Oui, c'est une particularité française. Hein. Donc c'est assez agréable. Et puis il y a le système aussi d'aide du CNC. Il y a tout un système qui fonctionne bien en France.
Alors on va parler plus spécifiquement de films italiens justement et de Belle mais pauvre. On va écouter tout de suite un extrait donc de ce film que vous avez ressorti. Donc on peut même dire ce film qui sort cette semaine
oui,
à Paris.
Oui.
Oui, 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 come mi fanno male. Ma che fanno quei due che non arrivano? Ma ve li volete andare, sì o no?
No!
Oh, oddio, Anna Maria, mi si è slacciata una calza.
Oh, ma proprio oggi ti dovevi mettere reggicalze per la prima
ma
volta.
Ma tu che ti sei messi tacchi a spillo e non ci sai camminare. Ma ve ne volete andare? Tanto con te non esco più.
Andiamo via, non vedi che a noi non c'è fine.
No, voglio vedere con chi c'è l'appuntamento, perché stasera quando vedo Romolo e Salvatore, vedete la sveglia che beviate. Capirà, questi due hanno due fratelli che menano.
Bravi, non ve ne andate, così la sveglia la pigliate voi. Abbiamo appuntamento proprio con loro due. Eccoli là, guarda.
Alors, Onaljama, pour ceux qui ne comprennent pas l'italien, je résume en quelques mots et sous votre contrôle l'histoire de Belle mais pauvre, hein, sortie en 1957. Deux jeunes hommes, Romolo et Salvatore, sont fiancés à deux femmes, Marisa et Anna Maria, et ils vont être obligés de gagner leur vie pour pouvoir se marier, parce qu'il faut un peu d'argent pour pouvoir se marier. C'est ce qu'on appelle une comédie romantique.
Oui, un peu sociale aussi. Et en fait, ce film-là, il fait partie d'une trilogie. que Dino Risi avait...
C'est presque une série, en fait.
Oui, voilà.
Ce qu'on appellerait aujourd'hui, ça serait une série télé.
Aujourd'hui, c'est une série télé parce qu'en fait, c'est trois films. Le premier s'appelait Pauvre mais beau. Le deuxième, c'est Belle mais pauvre. Et le troisième, c'est Pauvre millionnaire.
À la fin, ils sont bien, ils sont riches, quoi.
Enfin, ils trouvent du travail. C'est pas sûr encore. Hein, parce que rien ne leur réussit d'une certaine manière parce qu'ils veulent jamais changer, en fait. C'est des grands enfants et des garçons, surtout. Et donc, ce qui est particulier dans ces trois films, après on revient sur Belle mais pauvre, c'est que des personnages et des acteurs, c'est tous les mêmes. C'est pour ça que
Et ils jouent tous les rôles.
Tous les mêmes rôles.
Ouais.
Donc, au début, Pauvre mais beau, c'est deux copains qui aiment bien aller courir après des jolies filles dans Rome et leurs sœurs respectives sont amoureuses d'eux. Mais ils les regardent même pas, n'existent pas pour eux. Et donc, ils passent leur temps à se faire un peu, tourner en bourrique par les jeunes filles dans Rome. Et s'occupent pas de leurs amis, des sœurs de leurs amis. Et puis, le deuxième volet, c'est le fiançailles. Et le troisième, c'est le voyage de noces. Mais rien n'est bon. Rien ne fonctionne. Et c'est pour ça que c'est des comédies, parce qu'il y a un regard assez acerbe sur la réalité romaine et sur ses personnages par Dino Risi. Et puis c'est l'Italie d'après-guerre. Donc c'est l'Italie de la reconstruction, c'est l'Italie de...
Mais c'est justement ça, parce que vous l'avez évoqué, c'est à la fois, ce sont des comédies, il y a des moments très drôles, mais en toile de fond, il y a autre chose que la simple comédie. Il y a l'envie de montrer une Italie un petit peu qui souffre encore. Hein. On est dans l'après-guerre, on a la 1057, la guerre est terminée évidemment depuis 12 ans. L'Europe n'est pas particulièrement riche et il y a à la fois effectivement toute cette fraîcheur, c'est de l'amour, ils tombent amoureux, mais dans le fond c'est pas super drôle la vie en Italie à ce moment-là.
Et puis le travail n'est pas facile à trouver, et puis il faut avoir envie de travailler aussi, donc on n'est pas habitué encore à cette vie organisée et donc effectivement... C'est vrai que l'Italie de cette période-là, c'est juste avant le fameux boom économique. Donc, elle est en progrès, comment dire. Oui, elle arrive. Ça vient bientôt, mais on sent les prémices de ça. C'est dans le troisième volet. Mais dans les premiers deux volets, on est encore post-deuxième guerre mondiale.
Donc, ces films sont, quand ils sortent, un reflet d'une société qui, justement, attend une croissance économique qui ne vient pas ou qui va tarder à venir et qui reste une Italie relativement pauvre.
Très pauvre et très marginal. Et puis, en même temps, il y a ce charme populaire et de vouloir quand même bien vivre parce que la structure familiale est très importante. Donc, il y a une sorte de force et de sécurité dans la famille. C'est pour ça qu'on a du mal à mûrir et à aller chercher du travail ailleurs, parce que quand on rentre le soir, il y a la maman qui vous prépare des pâtes et on s'occupe de vous comme un prince.
Et quand ces films sortent, ils ont beaucoup de succès ?
Alors, c'est les trois plus gros succès de cette trilogie, c'est les trois plus gros succès de Dino Risi. Après, Dino Risi a été connu avec des films un peu plus...
plus intellectuels, on va dire.
Plus reconnaissables comme du grand cinéma.
Et qui ont eu des carrières internationales.
Internationales, voilà.
Mais ces trois films-là sortent essentiellement en Italie.
Ils sont sortis en Italie essentiellement et ça a été vraiment ses trois plus grands succès populaires de sa carrière, enfin de Dino Risi. Après, il y a eu Le Fanfaron, il y a eu des films qui sont magnifiques et qui sont venus après.
Mais à l'époque, il est connu comme cinéaste d'un cinéma populaire.
Oui.
Il y a autre chose, c'est que ces films, il y a une sorte de résonance avec la France. Il y a une histoire, non pas commune, mais on va dire une histoire proche du cinéma français, du cinéma italien, surtout à cette époque. Ces films ont une résonance aussi. Alors, à ce moment-là, quand ils sortent en 57, ils sont pas, on l'a dit, ils n'ont pas de carrière internationale. Mais il y a quand même un écho de cette fascination réciproque qu'il y a entre la France et l'Italie.
C'est juste un peu avant, parce que dans la fin des années 50, ça commence. Il y a d'autres cinéastes comme Valerio Zurlini ou après Fellini, Antonioni. Il y a eu un grand accord entre la France et l'Italie, où il y a beaucoup d'échanges d'ailleurs, beaucoup de grands acteurs français ont fait leur début de carrière en Italie, avec ce cinéma-là. Et on peut en citer quelques-uns, Anouk Aimé, Jean-Louis Trintignant, ses premiers films, c'est avec Valerio Zurlini, c'était violent, un de ses premiers films, Jacques Perrin, il a été connu avec, dans La fille à la valise, il avait 17 ans, il a fait son premier film, enfin. Les Italiens, ils avaient l'œil sur les acteurs français qu'ils aimaient beaucoup, et il y avait une réciprocité. Donc, disons que dans ce sens-là, ça s'est mieux passé. Et surtout, bon, après, il y a eu Michel Piccoli, Noiré, enfin, tout le monde a tourné en Italie, et c'était la grande période des grands films italiens avec des acteurs français. Donc il y avait cette
Mais c'était pas réciproque.
C'était réciproque dans, sur le papier, mais il y a peu de grands acteurs italiens qui ont trouvé leur bonheur en France, je dirais. Peut-être c'est subjectif ce que je viens de dire, mais c'est un peu l'impression que j'ai. Mais il y a des chefs-d'œuvre ou je sais pas, Anouk Aimée dans les films de Fellini ou Annie Girardot dans Rocco et ses frères. Enfin, il y a quand même pas mal d'exemples de ce côté-là de, des Alpes.
Et à l'époque où Dino Risi sort ses films, cette trilogie-là que dont vous ressortez Belle mais pauvre, on n'est pas encore là-dedans on est dans la comédie, puis va arriver juste après le néo-réalisme italien. Mais d'une certaine manière, Dino Risi est le précurseur, enfin c'est le moment charnière.
Ouais. On appelle, il y a un critique, je ne sais pas si c'est italien ou français, qui a appelé ça une sorte de néo-réalisme rose. Donc c'est vraiment juste un peu avant.
Et ensuite, ça devient le néo-réalisme de Rossellini, de Visconti, c'est ça. Rose parce que un peu naïf.
Parce que c'est un peu léger, c'est un peu comédie. Si on les voit comme ça à un degré immédiat, c'est des films un peu légers d'une certaine manière. Ils le sont. C'est des films drôles. On voit ces deux gars qui ils ratent tout. Il y a rien qui est bon. Ils arrivent pas à s'en sortir, en fait. Même dans le troisième volet où ils partent en voyage de noces, ils y arrivent jamais au but. Donc ils se retrouvent de nouveau chez eux à Rome. Mais ils ont pris quand même des trains. Ils ont raté le train. Leur marié ont pris un autre train. Enfin, ils se croisent tout le temps. Donc ils arrivent jamais au but, en fait.
Qu'est-ce qui fait que ces films sont encore alors, ils sont bons, vous l'avez dit, évidemment. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore modernes? Et pourquoi est-ce que les gens, ces films ont du succès aujourd'hui, quand vous les ressortez, et celui-là sort cette semaine, qu'est-ce qui fait leur modernité? Le fait que ce soit aussi des films un peu sociaux, vous pensez?
Peut-être ça, et aussi, je sais pas, il y a un goût en France, le public français, il a un goût très
marqué
sur ce type de cinéma. Je sais que maintenant, c'est devenu presque une... je dirais pas une mode, mais enfin, il y a une sorte de accumulation de films italiens classiques qui ressortent l'été parce que le public, il est là. Hein. C'est assez étonnant. Et en France, on aime beaucoup de voir ces films. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a les acteurs, il y a la qualité des films, il y a aussi ce que vous dites. Effectivement, il y a le côté un peu social encore qui nous rappelle quelques situations. On est en sorte de boucle qui est en train de revenir. Alors peut-être il y a ça aussi. Il y a plein d'éléments qui font que...
Et puis le cinéma italien fait toujours un peu rêver les Français. Voilà. Il faut être honnête. Ronald Chama, je vous remercie beaucoup d'être venu dans les matins de France Culture. Ce film Belle mais pauvre, donc sorti pour la première fois en 57 et qui ressort cette semaine, 70 ans plus tard, notamment dans les cinémas Christine 21 et École 21.